Allons ailleurs pour proclamer l'Évangile. Jésus est sorti pour cela, et à sa suite, nous aussi, nous sommes envoyés, disciples, missionnaires, témoins de l'Évangile. Nous allons donc d'abord découvrir quelques spécificités de l'évangile de Marc. En quoi est-ce que cet évangile est-il missionnaire? En quoi Jésus est missionnaire? Et en quoi nous, à la suite des disciples, nous sommes envoyés en mission? Et comment cela peut stimuler notre évangélisation, notre proclamation de l'évangile par nos actes et parfois par des paroles? Puis dans une seconde partie, nous irons sur les chemins avec Jésus et nous regarderons comment il a vécu la rencontre avec sept hommes et femmes, juifs et païens. Enfin, je conclurai en essayant de dégager quelques pistes pour nous aujourd'hui face aux défis de l'Église et du monde de ce temps. En quoi l'Évangile de Marc, sa communauté, peuvent-ils nous aider à voir plus clair dans le défi de la mission, ici et maintenant. Un évangile missionnaire. Premier point, commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce mot ne peut pas ne pas nous faire penser au tout premier mot de la Bible, aux pages de la Genèse, de l'origine, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et au tout début de l'évangile de Jean, je le rappelais ce matin, au commencement était le Verbe. Dès le début de son récit, saint Marc nous dit que c'est Jésus qui est le commencement, en grec le prototype, ou le mot grec c'est arché, l'archétype, le commencement de la mission. L'histoire de Jésus, c'est le début de l'histoire de la parole. Pour reprendre un terme que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, vous le trouverez en Actes 3, 15 et 5, 31, Actes 3, 15 et 5, 31, mais aussi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 2, 10 et 12, 2. Jésus est donc cet arché, ce principe, ce guide, cet initiateur, ce fondateur de l'annonce de l'Évangile. Tout commence en Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit « Tout recommence en Jésus-Christ », mais là, saint Marc nous dit « Tout commence en lui ». Il est le principe, le guide, l'initiateur, le fondateur. À la différence de Matthieu et de Luc qui prennent le temps de nous raconter les origines de Jésus, Marc nous place d'emblée devant Jésus qui est celui qui proclame la bonne nouvelle. Tout part de là, de cette annonce, de cette proclamation. Chez Marc, ça ne traîne pas. Dès le premier verset, la mission démarre sur le chapeau de roue. Mais lisons un peu plus loin, Marc 1, 15, 14 et 15. Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Ici, on a ce qu'on appelle un sommaire, un petit genre littéraire qu'affectionne saint Marc et saint Luc, une sorte de résumé qui récapitule où on en est dans le récit, qui permet de faire une pause pour avancer plus loin. Donc, en peu de mots, le temps de ce qui se passe est beaucoup plus long. C'est toute une tranche du ministère de Jésus qui est ici résumée. Donc voilà la nouveauté de ce que veut nous dire Marc, de l'arrivée de Jésus. Le temps est accompli, on pourrait traduire le temps a cargué ses voiles. Les voiles se sont pleinement déployées, les voiles du temps. Le royaume de Dieu est tout proche. Changez, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc, l'irruption de l'évangile provoque la foi et la conversion. Telle est la nouveauté de l'arrivée de Jésus. Ici, on pourrait rapprocher ce passage de deux passages d'Isaïe, Isaïe 49, 10 et Isaïe 61, 1. Monte sur une haute montagne, proclame la bonne nouvelle à Sion, élève la voix, ne crains pas, annonce la bonne nouvelle. Donc le mot évangile présent dès Isaïe. Et puis Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, vous connaissez ce passage, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération, aux prisonniers la délivrance. Voilà, donc l'évangile qui prend corps, qui commence. Deuxième aspect missionnaire, Jésus sortit pour aller ailleurs. Au chapitre 1, la folle journée de Capharnaüm de Jésus, le matin bien avant l'aube, il s'est levé, il est sorti et il est allé dans un lieu désert pour prier. C'est sa première sortie. Simon se met à sa recherche, ainsi que ses compagnons, ils finissent par le retrouver, et vous vous souvenez, on lui dit, tout le monde te cherche. Et que répond Jésus? Allons ailleurs, parce que c'est pour cela que je suis sorti. Donc ici on a un lien très fort entre être envoyé, sortir, répondre à un appel, et puis proclamer, annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis sorti, pour proclamer ailleurs l'évangile. Jésus est bien cet homme en marche, porteur de la bonne nouvelle, et lui-même, on peut dire, est porté par cette parole, porté par le Père qui l'envoie, porté par l'Esprit qui l'envoie, comme messager d'un temps nouveau. Et tout l'élan de son cœur, il est d'aller vers, de sortir vers la foule, vers les non-initiés, les pauvres, les petits, en débordant le cercle familier de sa culture, de sa religion. Toute sa vie, ses choix, ses gestes, ses paroles, sa mort, sa résurrection seront évangile, heureuse nouvelle. Saint Paul lui parlera du langage de la croix, qui est sagesse de Dieu. Il y en a quelque chose d'équivalent ici. Quant à la résurrection, dès le début, elle est un cri, un message qui se répand petit à petit, qui se propage, qui se communique. Donc quand Marc nous dit que Jésus est sorti, c'est pour cela que je suis sorti, ce n'est pas qu'une indication géographique, comme si on disait, voilà, il sort de Capharnaüm, ou quand on dit, je vais encore sortir ce soir. Non, c'est un langage théologique, il nous dit quelque chose de Dieu et de l'homme Jésus. Jésus est sorti de Dieu pour venir dans le monde. Saint Jean nous dira, sachant qu'il venait du Père, qu'il allait vers le Père, il entre dans le monde, puis il retourne à son Père. Ici, Marc nous dit, voilà, Jésus est sorti pour un ailleurs, pour nous faire entrer dans un autre monde, celui de Dieu, celui du Père. Ce matin, notre évêque l'a souligné, dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul disait, recherchez les choses d'en haut. Donc Jésus nous conduit au Père du ciel. Il sort pour cela. Troisième aspect missionnaire, c'est la place de la Galilée, dont j'en parlais tout à l'heure, voilà. La place de la Galilée dans l'évangile de Marc, qui est le carrefour des nations. si on regarde bien, Jésus ne va pas bien loin au plan géographique. Il se limite aux petites bourgades de Galilée, avec quelques incursions en territoire païen. Rien à voir avec tous les voyages de Paul dans les villes et le pourtour méditerranéen. En même temps, au sein de son petit monde, j'allais dire, de Jésus, sa sortie, elle est très forte. Voilà. Il va auprès de tous, pas seulement, je le disais tout à l'heure, ceux de son cercle à lui. Il est auprès des petites gens, ceux qu'on appelait les Haaretz, c'est-à-dire les gens de la terre, les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs, les percepteurs. Il ne se mêle pas au monde des affaires, ni à la cour royale. Il va vers les païens. Et quand il rencontre les païens, il s'émerveille de leur foi, une foi qui les a mis en chemin, qui les a fait venir à lui. Bien souvent, l'initiative ne vient pas de Jésus, mais de celui ou celle qui a cette foi dans le cœur et qui est attiré par Jésus. Quatrième aspect missionnaire, le verbe proclamer. Proclamons bonne nouvelle. Je trouve que c'est un chant du Mège, Marie-Françoise, je ne sais pas si tu le connais. Proclamons bonne nouvelle, levons la tête aujourd'hui, notre monde se renouvelle, Christ est vraiment ressuscité. Proclamons, un verbe qui résume toute l'activité de Jésus. Ce verbe, on le trouve 33 fois dans le Premier Testament, 14 fois chez Marc, 9 fois chez Matthieu et 9 fois chez Luc. Le verbe kérusein, proclamer. Donc c'est surtout Jésus qui proclame, mais Jean-Baptiste aussi proclame, les 12, le lépreux guéri, les démoniaques délivrés et les témoins d'un miracle qui proclament tout ce que Jésus a fait, qui est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Un verbe qui se rapporte toujours à un événement, à un fait, et non à une doctrine. On rapporte une action dont on n'est pas soi-même l'auteur. Jésus proclamait l'évangile de Dieu. Cette proclamation, elle est au présent. C'est le fameux kairos, le temps de Dieu, le temps favorable, le temps fixé, l'heure favorable. Celui qui proclame n'est que le canal, que le messager. Il s'efface derrière celui qui l'annonce. Jésus n'est venu que pour cela, proclamer la bonne nouvelle dans le monde. Tout le reste appartient à son Père. Pour lui, il s'agit de proclamer l'essentiel, le royaume de son Père, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde. Ce verbe proclamer a un petit cousin dans le vocabulaire biblique, c'est le mot kérigma. Kérusein, kérigma. Le kérigme, c'est vraiment la substantifique moelle du message de l'Évangile. Jésus était mort, il est ressuscité, nous l'annonçons. Proclamons bonne nouvelle. Bonne nouvelle, nous l'avons vu ce matin, c'est le mot Evangelion, une expression qui est née 6 siècles avant Jésus, au cœur de l'exil, donc en particulier dans le deuxième Isaïe. Dans le Nouveau Testament, ce sont surtout saint Marc et saint Paul qui l'utilisent. Et pour Marc, cette bonne nouvelle, c'est une personne, Jésus, le Christ. On peut dire que non seulement il annonçait l'Évangile, mais il était l'Évangile, par sa vie, par ses actes, par son attitude, par son ouverture à tous, en particulier aux pauvres et aux petits. Jésus a proclamé la bonne nouvelle parce qu'il a fait, parce qu'il a été. Avant de dire la parole de Dieu, il fut la parole de Dieu. Cinquième aspect missionnaire de cet évangile, le secret bien gardé. Bon, j'en ai déjà dit un petit mot, c'est le fameux secret messianique. Donc Jésus qui impose le silence à tous ceux qui veulent dire son identité. Donc, par exemple, l'esprit impur, Jésus lui dit « tais-toi » en Marc 1, 25. Un peu plus loin, en Marc 3, 12, et il leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître. Le lépreux guéri aussi ne doit rien dire à personne. Même chose pour les témoins de la résurrection de la fille de Jaïr ou ceux de la guérison du sourd bègue en 5, 43 et 7, 36. On parle souvent de secret messianique, mais je me souviens à Toulouse, le père Légas, qui était notre enseignant, nous disait qu'il vaudrait mieux parler de secret sur l'identité de fils de Dieu de Jésus, parce que c'est l'identité de fils de Dieu qui est, dont il est question. Camille Faucan, un des commentateurs de Marc, parle de la christologie de l'étonnement. Marc, une christologie de l'étonnement. Marc veut nous conduire à contempler le mystère du Christ crucifié et ressuscité, mais il ne faut pas aller trop vite. Et peu à peu, on découvre qui est vraiment Jésus à travers cet étonnement progressif, ce dévoilement progressif. Le danger, donc, ce serait d'en faire un messie terrestre, triomphant, temporel, qui court-circuiterait le passage par la croix. Le possédé de Gérasa, les démons savent qui est Jésus, ils disent « tu es le Saint de Dieu », et Jésus ne les laisse pas parler. C'est là qu'il y a une différence entre savoir, on peut savoir beaucoup de choses sur Dieu et ne pas être dans la foi, et dans la relation. Jésus, ce qu'il nous demande, c'est une connaissance, c'est le connaître de l'intérieur. Et bientôt, le possédé de Gérasa sera clairvoyant sur qui est vraiment Jésus. Et un petit peu comme un souffleur de théâtre, c'est lui qui nous invite, comme tous les lecteurs de Marc, à poursuivre la recherche, à répondre à la question « Mais qui est donc cet homme ?» Alors, accrochez-vous, à propos du secret messianique, Daniel Marguerat, qui vient d'écrire un livre sur Jésus, dit « Il est plus juste de dire que l'évangile de Marc ne protège pas un secret, mais qu'il narrative sa dissolution. » Donc, le secret messianique, ce n'est pas protéger quelque chose qui est secret, mais c'est mettre en récit le fait que petit à petit, il n'y aura plus de secret. Donc c'est narrativer sa dissolution. Mettre en récit le fait que peu à peu, il n'y a plus de secret, on découvre qui est Jésus. Le micro étant fatigué, je vais parler sans micro. Sixième aspect, la double multiplication des pains. Ce n'est pas par hasard que Marc nous raconte deux multiplications, une pour les Juifs, une pour les païens. La première, 5000 hommes, 12 paniers, qui renvoient à 12 tribus d'Israël. Et la seconde, pour les païens, 7 pains, quelques petits poissons, 7 corbeilles et 4000 hommes. 12, c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, la totalité du peuple de Dieu rassemblé. Et 7, c'était en Grèce, les cités étaient gouvernées par 7 sages. Évoque les 4 points cardinaux. L'univers entier.
Alors j'avance parce que le temps tourne. Le septième aspect missionnaire, ce sont les deux finales. Hein, vous savez peut-être que l'évangile de Marc se termine sur la peur des femmes. Elles ne disent rien car elles avaient peur. Et puis ensuite, il y a un deuxième récit où Jésus ressuscité apparaît aux disciples. Donc la première conclusion de l'évangile, c'est cette première finale qui est éminemment missionnaire. Les femmes furent saisies de peur, mais il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors ça, c'est quand même un peu fort de café, ou de thé. Un évangile qui s'arrête sur la peur des femmes. Et en plus, Marc en rajoute, du café ou du thé, en nous disant « et elles n'en dirent rien à personne ». Étonnant. Si vraiment elles n'avaient rien dit, ben, est-ce qu'on serait là pour entendre parler de Jésus ? Marc insiste pour nous dire que, comme pour les disciples, le mystère de la résurrection échappe à notre raison, à notre intellectuel, dont on parlait ce matin, à notre compréhension seulement humaine. La bonne nouvelle, Christ est mort puis ressuscité, elle est proprement incroyable. J'y crois pas, disent souvent les jeunes. Oui, cette nouvelle inouïe est une des plus difficiles à proclamer. Devant le tombeau ouvert et devant le message de l'ange, notre foi est nue. D'ailleurs, Michel Quesnel, c'est une petite perle de son interprétation du jeune homme qui s'enfuit, image de Jésus qui va aussi se dépouiller de son humanité pour vivre. C'est le temps nécessaire du silence, de l'accueil, de la contemplation de Jésus crucifié et ressuscité. Donc, comme si Marc nous disait, il faut passer par ce choc de l'absence de Jésus avant de pouvoir proclamer « il est ressuscité ». Le « aller » annoncé viendra plus tard. Marc nous donne du temps et de l'espace pour nous laisser saisir par ce mystère qui est le cœur de notre foi. On pourrait dire que la résurrection, c'est le berceau de notre foi. Et il faut en prendre soin de ce berceau et de celui qui est à l'intérieur. Ce qui compte pour Marc, et ce qui compte aussi pour Jésus dans sa manière d'être et de vivre, c'est moins l'évangélisation que l'évangile. Avant de parler de la collaboration humaine à cette tâche, ce qui est premier, c'est l'impact et la force de cette annonce triomphale annoncée au monde. Le message brut, le Nazaréen crucifié et ressuscité, voilà l'étincelle, la flamme brûlante qui se propage et va mettre le feu au monde. Et c'est sur ce cri que s'achève l'évangile de Marc. Dans le silence de la croix, dans le silence du tombeau, la peur des hommes et des femmes, un ange, messager de Dieu, fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Il est vivant. Désormais, les peuples peuvent se rassembler des quatre vents. La vie peut envahir le monde. Elle est plus forte que la mort.